actuel, il y a de fortes chances qu'on ait besoin à un moment ou à l'autre de consulter un verset. Donc, 1 Samuel, je vais essayer d'être assez rapide pour revoir les 7 premiers chapitres, les points importants. Donc, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués au mois de la famille, c'est possible qu'il y en ait quelques-uns. L'idée était, il y a plusieurs années, de découvrir ou redécouvrir un personnage de la Bible, à la fois sa vie, son époque, sa famille, pour en tirer des pistes de réflexion et surtout des enseignements qui peuvent s'appliquer à notre vie quotidienne. Et c'est là qu'on découvre, d'ailleurs, en étudiant les personnages de la Bible, même s'ils ont 3000 ans, ce qui est le cas de Samuel, à peu près, hein, 3000 ans, malgré la différence d'époque, de culture, la Bible dit « toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, à suivre ou à ne pas suivre d'ailleurs ». Et c'est vrai, quand on regarde malgré la différence de temps, malgré les années qui sont passées, 3000 ans c'est quand même pas rien, on s'aperçoit que les hommes n'ont pas changé, le cœur de l'homme est resté rigoureusement le même, avec les mêmes fardeaux, les mêmes difficultés, les mêmes échecs, on a parlé la semaine dernière de nos échecs, les mêmes problèmes, mais la même grâce de Dieu pour restaurer, pour bénir. Donc, ce sont des histoires, même si elles ont 3000 ans, qui nous apportent beaucoup. L'histoire de Samuel, je fais un tout petit rappel, hein, se situe à la fin des juges. Donc, vous vous souvenez, vous aviez Adam et Ève, Noé, Abraham, c'est moins 2000 ans avant Jésus-Christ, Isaac, Jacob, Joseph, donc là c'est, on est de père en fils, Joseph qui a fait l'entrée en Égypte et c'est 400 ans plus tard, la sortie d'Égypte avec Moïse et l'entrée au pays de Canaan avec Josué et puis les juges. Alors les juges, ceux qu'on connaît bien, hein, c'est Déborah, etc., Gédéon. Et le dernier juge, le tout dernier, c'était Samuel. Hein, les juges, c'était des chefs du peuple, hein, ce n'était pas des juges comme on a aujourd'hui, ou comme les Anglais ont là, avec les perruques, etc., que vous voyez dans les, dans les séries. Voilà, donc, pour bien vous le situer, Samuel, le dernier juge, qui va donc être celui qui va nommer le premier roi, qui est Saül, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça, André est un peu empiété sur ce qu'on va faire dans 2 semaines, mais ce n'est pas grave. voilà. Donc, il est important, Samuel, parce que justement, c'est lui qui va nommer le premier roi. Les deux livres de Samuel, ils portent son nom, mais en fait, dans la classification hébraïque, il est classé dans les prophètes, le premier prophète. Ceci étant, ce ne sont pas de simples livres historiques, hein, les livres de 1 de Samuel et 1 de roi, 1 de chronique. On les classe dans les livres historiques, nous. Mais il y a plus que de l'histoire, bien sûr, parce que souvent l'auteur va s'attacher à des petites choses qui ne sont pas importantes pour la ligne de l'histoire, mais qui sont très importantes pour notre édification. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit quand vous discutez avec quelqu'un. Ah oui, mais la Bible, il y a des tas de choses qui manquent historiquement, et puis il y a des choses qui sont dedans, qu'on ne voit pas l'intérêt, on ne les voit pas ailleurs dans l'histoire. Bah oui, parce que le but de la Bible n'est pas de faire un livre d'histoire. Le but de la Bible, c'est de nous apprendre des choses pour notre vie et notre relation avec Dieu. Hein. Donc évidemment, on va retrouver certains rois et on va retrouver leur histoire sur des tablettes à Ougarit, ou, etc. Dans l'archéologie, on va retrouver des choses. Mais il y a des choses qu'on ne va pas retrouver parce qu'elles n'intéressaient personne à l'époque. Par contre, elles intéressaient Dieu. Donc c'est important parce que souvent quand on discute avec les gens, on oublie cet aspect. La Bible, oui, a un aspect historique, mais ce n'est pas son but. Donc il y a des choses très importantes pour l'histoire qu'elle va complètement zapper parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de nous donner un enseignement. De ce fait, on va trouver des personnages importants et aussi des petits personnages obscurs, mais qui sont peints avec beaucoup de vérité dans leur dimension humaine. Et pour moi, d'ailleurs, c'est un signe d'authenticité. Parce qu'il nous montre que les grands hommes, les principaux acteurs, ne sont pas décrits de façon flatteuse. Et ça, pour moi, c'est très important. Et quand les gens vous disent « ouais, la Bible, bah, écoute, la Bible, elle a quelque chose de super », c'est qu'elle ne décrit pas nos héros avec de la flatterie. Hein, ils sont tout beaux, tout dorés, tout magnifiques. Non, on voit leurs failles, on voit leurs échecs. Et franchement, ça fait du bien. Hein? Je suis sûre qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont là avec des fardeaux, avec des soucis. Oh là là, voilà, je dois porter ça et je vis tel échec, telle difficulté. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Il y en a d'autres dans la Bible qui l'ont vécu avant vous. Ça fait du bien. Hein? Des Joseph, des Moïse, des gens importants, des gens qu'on admire, Paul, etc. Eh bien, eux aussi, ils ont eu leurs échecs et leurs difficultés. Ce qui va compter, c'est la façon d'en sortir. Et c'est là-dessus qu'on va évidemment s'attarder. Donc, on peut s'identifier à tous ces gens. C'est pour ça qu'on passe du temps chaque année sur un personnage de la Bible. Alors, Samuel, vous vous souvenez, j'imagine, je ne vais pas faire une interro. Hein. Samuel signifie « entendu, exaucé de Dieu ». J'aime beaucoup ce prénom, évidemment. Je l'ai choisi en sachant ce qu'il voulait dire. Je me souviens quand j'ai annoncé la naissance de mon deuxième à mon prof de fac, qui était protestante, elle m'a dit « j'imagine que vous connaissez la signification du prénom ». Elle y avait pensé. Oui, exaucé, entendu de Dieu. Dieu nous entend toujours. Et surtout en ce moment, si vous êtes là avec des fardeaux, des soucis, sachez que Dieu vous entend. Dieu vous entend et il vous exauce. Donc c'est un prénom qui nous fait du bien. Hein. L'histoire de Samuel se situe à peu près 1100 avant Jésus-Christ, puisque c'est facile à se rappeler, le roi David, en gros, c'est 1000. Donc voilà, avant à peu près 1100, évidemment un petit peu moins. Donc ils sont tous installés en Canaan, les Israélites, depuis la prise de Jéricho. Ça fait largement plus de 100 ans. Mais l'occupation n'est pas totale. Ils ont laissé, ben voilà, là. C'est pas facile hein, de toujours faire la guerre et repousser les gens. Finalement, ils ont fait des accommodements. Et un symbole très fort pour nous, on ne fait pas de compromis avec l'ennemi. Ah, ils en ont fait des compromis parce que finalement, ben, ils n'étaient pas toujours si méchants que ça. Et puis voilà, et puis c'était pratique pour le commerce, et puis on gagnait plus d'argent, et puis il fallait mieux vivre en paix, n'est-ce pas? Voilà. Donc, compromis. Et il y a un problème qui se présente sans arrêt, c'est les Philistins. Alors, entre parenthèses, c'est important, surtout en ce moment, où le mot palestinien et Palestine vient du mot philistin. Hein. Et les Philistins n'étaient pas des habitants qui résidaient en Israël depuis des siècles. Les Philistins venaient du nord et ils cherchaient à choper la côte. Parce que c'est intéressant d'avoir une côte pour la pêche, pour le commerce. Donc, ils visaient toute la côte d'Israël, là, hyper précieuse pour le commerce. Et c'est ça qu'ils voulaient récupérer. Donc, quand on vous dit que les Palestiniens, c'est une ancienne peuplade qui vient des Philistins, etc., peut-être, mais en tout cas, les Philistins, ils venaient du nord. Ce n'étaient pas des habitants locaux comme les habitants de Jéricho, ou vous voyez. Hein. C'est important de s'en rappeler. Parce qu'on joue un peu avec les mots, historiquement, hein. Et les Philistins étaient des gens qui venaient du nord et c'était des envahisseurs. Ils cherchaient à récupérer la côte. Ça peut se comprendre, mais voilà. Et ils essayaient de repousser les Israélites vers les montagnes, vers l'intérieur. Donc, le père de Samuel, Elkana, Dieu se l'est acquis. C'est pas mal comme prénom, Elkana. Ah bah c'est le fils d'Eliette qui s'appelait Elkana. Sympa, Dieu se l'est acquis. C'était probablement un Lévite, un prêtre qui vivait à Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm. La Bible, un petit rappel, nous dit qu'il avait deux femmes, Anne, qui veut dire grâce, et Pénina, perle. Mais le problème, c'est que Anne était stérile, c'est probablement pour ça qu'il avait une deuxième femme, parce qu'à l'époque, il fallait absolument avoir des enfants, et on tolérait la polygamie dans ce cas-là. Visiblement, Elkana n'avait pas beaucoup d'affection pour Ménina, mais il aimait beaucoup Anne. Et Anne était complètement déprimée. Au début de notre histoire, vous vous souvenez, Anne était complètement, complètement déprimée. Elle va tous les ans, ils allaient au temple, à Silo, pour prier. Et l'histoire de Samuel commence mal parce que, avec ce problème de stérilité, Anne est très amère. Elle pleure tout le temps, elle refuse de manger, elle est dans un désespoir total. L'histoire commence dans le désespoir, en fait, l'histoire de Samuel. Le désespoir de sa mère, un véritable deuil. Et vous vous souvenez, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que cette année-là, Ça faisait des années qu'elle traînait sa misère. Mais cette année-là, elle n'en peut plus. Et au lieu de rester dans la dépression, elle va crier à Dieu. Et c'est un texte que j'aime beaucoup parce que souvent, on porte notre misère, on va porter nos problèmes, les porter, se plaindre, les porter, continuer à les porter, demander aux autres gens de porter avec nous. Mais parfois, je crois qu'on a besoin de hurler à Dieu notre souffrance, notre misère, notre malheur. Et je crois qu'il faut, on se retient. Je me demande pourquoi. On est franchement bête parfois. Pourquoi ? Pourquoi pas se jeter par terre, dire « Seigneur, j'en peux plus, c'est fini, c'est plus possible » et vraiment déverser ce qu'on a sur le cœur. Parce qu'Anne, elle avait gardé toute son amertume comme ça, bien dans la bouteille, hein, bien fermée. Vous savez, quand il y a trop de pression, parfois la bouteille, elle explose. Et d'un sens, c'est pas plus mal, parce que là, quand elle a explosé, elle a pu vider son cœur. Évidemment, il y a eu un problème. C'est que le prêtre, qui était vieux et vraiment bouché spirituellement, il n'a rien compris, il a jugé. Je vous souvenez, on avait parlé du problème des apparences, de faire attention de ne pas juger à l'apparence. Il a vu cette femme échevelée qui pleure, qui crie dans le temple. Mais qu'est-ce que c'est que cette ivrogne ? Et Dieu va cuver ton vin ailleurs. Ça ne fait pas plaisir. Et parfois, nous aussi, on peut rencontrer des gens qui ne comprennent pas notre souffrance. D'abord, parce que tout le monde n'est pas... Ils ne sont pas tous branchés hein, sur le même problème. Et moi, j'admire la réaction de Anne. Je ne sais pas si... Je ne me serais pas fâchée quand même. Quand même, c'est un prêtre, il est là pour justement être intermédiaire entre Dieu et les hommes, à l'époque. Hein, c'est maintenant on a Jésus, c'est quand même beaucoup mieux. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Va cuver ton vin ailleurs. C'est vachement insultant. Et c'est faux. Parce que être insulté de quelque chose qui est vrai, ce n'est pas très agréable, mais au moins on peut se dire, c'est vrai. Mais quand ce n'est pas vrai, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est quelque chose que je ne supporte pas. Qu'on m'accuse de quelque chose de vrai, venez me dire quelque chose, si c'est vrai, même si je ne suis pas contente, j'avale. Mais si ce n'est pas vrai, ouf, là c'est dur. Et Anne, malgré sa souffrance, moi je l'admire, elle n'a pas réagi négativement. Elle a simplement dit, voilà, je déverse ma souffrance devant Dieu. Elle a dit les choses comme elles étaient. Je ne suis pas ivre, je déverse simplement ma souffrance devant Dieu. Bon, il a ravalé sa salive et il l'a bénie. Et après ça, elle ne s'est pas laissée offenser. On parlait de l'offense tout à l'heure dans la voiture avec André. Mais elle ne s'est pas laissée offenser. Et je crois que nous aussi, souvent, on peut être mal compris. On peut être mal compris par les autres frères et sœurs, par la famille, par le pasteur. Ça peut arriver, il n'est pas parfait, je peux vous dire. Et la femme du pasteur aussi. Un orateur de passage que vous admirez et qui ne va rien comprendre à ce que vous lui expliquez. Vous dites, ah ! La colère que ça peut faire. Hein. Et ayons l'attitude de Anne, ben, l'homme est homme, il est faillible, et de temps en temps, il peut juger sur l'apparence, il peut se tromper. Ok. Ne nous laissons pas offenser. Parce que si elle s'était laissée offenser, il n'y aurait pas eu de Samuel. Vous vous rendez compte la perte que ça aurait été pour Israël ? Donc elle ne s'est pas laissée offenser. Et elle est repartie soulagée. Et ça, moi j'aimerais bien que quand on vient à l'église, il y a ce chant qui dit... L'un prie et l'autre pleure. Et il y a des matins au culte, je pense qu'il y en a plusieurs qui aimeraient bien pleurer parce que c'est trop lourd. Ils disent, oh, qu'est-ce que les gens vont dire ? Ils vont demander ce que j'ai, gna gna gna. Mais et alors ? Je pense que c'est important que dans une église, on ait cette liberté de pleurer. De pleurer si on a envie de pleurer. Et chaque fois qu'on a un gros fardeau sur le cœur, ben, on a envie de pleurer. Et alors ? L'église, elle est là pour ça aussi. Et c'est bon de s'exprimer. Elle s'est exprimée, elle est partie avec la bénédiction. Elle ne s'est pas laissée offenser. Et, bien sûr, quelques temps après, en tout cas l'année suivante, elle avait Samuel et elle avait promis. Elle avait promis que si elle avait un fils, elle le consacrerait à l'Éternel. Franchement, elle avait du courage, mais elle a tenu sa promesse. Et ça, on avait aussi noté ça, hein, tenir ses promesses qu'on a faites au Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez de promesses que vous avez faites au Seigneur ? Ah Seigneur, si tu me donnes ça, si tu me donnes cette maison, si tu me donnes cette promotion, si tu me donnes ce mari ou cette femme, oh là là, je ferai ça et ça pour toi. Est-ce qu'on tient ce genre de promesses ? C'est important de s'en rappeler. Et quand Dieu nous exauce, ne pas oublier de remercier. Malheureusement, moi j'ai vu souvent, surtout quand j'étais jeune, vu que j'étais dans une grosse église, on voyait beaucoup de choses, des gens qui avaient prié pour quelque chose et quand Dieu leur avait accordé, eh ben ils abandonnaient le Seigneur. Parce qu'ils avaient vu ce qu'ils avaient besoin et ils ont complètement oublié tout ce qu'ils avaient dit. Seigneur, quand j'aurai cette maison, je ferai ça et ça pour toi. Quand j'aurai ce travail, je ferai ça et ça pour toi. Et puis une fois qu'ils l'ont, on ne les voit plus à l'église. Bon, ce n'est pas ça le plus grave nécessairement, mais c'est surtout que bah, même le Seigneur, voilà, c'est devenu accessoire dans leur vie. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Attention, attention à ça. Anne, elle va tenir ses promesses avec l'accord de son mari. Et là, on va voir le contraste entre, vous vous souvenez, Elkana, qui va accepter l'engagement de sa femme, qui va s'y associer, et Élie, qui va complètement gaffer avec ses enfants. Élie, qui va honorer ses fils plus que Dieu. Elkana, qui va honorer Dieu plus que son premier fils de Anne. Très important. Vous savez, vous remarquerez toujours quand vous étudiez la Bible, il y a tout le temps comme ça des comparaisons, des contrastes. Il y en a plein dans le livre de Samuel. Et c'est très amusant à regarder, parce qu'on sent que celui qui a écrit, il avait bien une intention en tête pour faire ressortir certaines comparaisons. On va en voir d'autres tout à l'heure. On avait vu que Samuel, vers 4-5 ans, au plus tard, rentrait au service de Dieu au temple. Et je vous avais rassuré en disant, je pense que Dieu donne ce qu'il ordonne. Il n'a pas eu l'air malheureux du tout. Donc c'est que Dieu avait pourvu. Certainement, les historiens disent qu'il y avait dans le temple tout un tas de femmes qui faisaient le service. Et certainement qu'il a été entouré, il a été choyé, pas de problème. Et vous savez, les enfants de cette époque-là, on l'avait signalé la dernière fois, étaient beaucoup plus autonomes que nos enfants de 4-5 ans aujourd'hui. Ils n'étaient pas élevés dans du coton, ils étaient très très vite autonomes. On avait revu cette pensée que nos enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne sont pas là pour notre bonheur, ils ne sont pas là pour notre plaisir ou notre fierté, ni pour compenser ce qu'on n'a pas pu faire. Et ça, c'est un danger. En tant que parent, évidemment, on est content, on a du plaisir à voir nos enfants. On est fier de nos enfants et parfois on espère qu'ils feront ce que nous, on n'a pas pu faire. C'est humain, c'est naturel. Mais attention, il faut se rappeler qu'ils ne sont quand même pas là pour ça. Et ma mère se chargeait toujours de me rappeler qu'elle avait prié pour avoir un enfant qui serve le Seigneur. Et elle me l'a redit assez souvent. Et c'était assez drôle d'ailleurs, parce que quand elle a vu que c'était une fille, elle se dit « mince, ça ne va rien pouvoir faire ». Et puis elle s'est aperçue que non, finalement, elle était beaucoup plus évoluée que l'église dans laquelle elle était et que les filles avaient aussi une place pour servir le Seigneur. Voilà, elle serait contente aujourd'hui, je pense, même si elle n'était jamais assez contente, parce qu'il faut toujours plus, toujours plus. Mais il faut se rappeler quand même que les enfants ne sont pas là pour notre plaisir, notre fierté, pour compenser ce qu'on n'a pas pu faire. Le but, c'est de les préparer à entrer dans leur destinée. Et Anne savait que la destinée de Samuel, c'était de servir au temple. Il est devenu prophète, il est devenu sacrificateur aussi, juge, c'est-à-dire... Il a géré le peuple, leader du peuple. C'était pas rien. Elle l'a élevé dans cette optique-là. Et je le dis aux jeunes parents, aux futurs mariés, etc. Quand on élève des enfants, il faut avoir un objectif. Ils sont pas là pour nous. On est là pour les faire entrer dans leur destinée. Et il faut avoir un objectif. Alors, pas trop précis, parce que si vous voulez vraiment qu'ils soient missionnaires en Birmanie, bon, c'est pas forcément ce que Dieu veut, mais un objectif, qu'ils servent le Seigneur. Que leur vie soit la gloire de Dieu. Alors là, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a un échec? Quand il ne prend pas du tout le bon chemin? Ou quand il commence mal? Eh bien, on continue à prier. Parce que vous savez, comme on le disait la semaine dernière, Dieu recycle nos échecs. Et il peut même se servir de ses échecs pour après servir le Seigneur. Donc, il ne faut pas se laisser décourager, mais il faut garder cet objectif. Et malgré toute notre tendance naturelle, se rappeler qu'ils ne sont pas là pour nous, mais on les élève pour qu'ils rentrent dans leur destinée. Et vous savez, je pense que l'être humain a été fabriqué pour servir et aimer le Seigneur. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ce qui fait que quand on est à côté, ben on est malheureux. C'est toujours l'histoire que je dis à chaque fois. Si vous mettez de la vaisselle dans un lave-linge, vous aurez des gros problèmes. Et malheureusement, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils ont été créés, ils ont été faits pour servir et adorer Dieu. Et ils veulent faire tout sauf ça. Eh bien, ça fait la même chose que la vaisselle dans le lave-linge. Et on en voit les résultats. Il suffit d'ouvrir un journal, vous allez voir le résultat. Bon, on avait vu donc qu'il avait commencé à servir au temple. Et dans la prière d'Anne, c'est merveilleux, la prière d'Anne, je vous demande de la relire peut-être pour la prochaine fois. Vous voyez à quel point Dieu renverse les situations. Vous vous souvenez, on avait parlé la dernière fois. Les situations les plus catastrophiques, comment Dieu peut les renverser. Et Anne insiste là-dessus en sa prière. Dieu a beau être le créateur du cosmos, de l'univers, de l'histoire, il pense aussi aux plus petits, à l'opprimé. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Il peut à la fois gérer tout l'univers, l'équilibre des planètes, etc. Et puis penser aux plus petits d'entre nous, aux plus malheureux. Ouh, donc quand on est malheureux, ça fait du bien. Alors, après, on avait vu dans la croissance de Samuel, pendant la croissance de Samuel, une opposition très marquée, comme je disais tout à l'heure, entre Samuel et les fils d'Élie. Il se trouve que ce bon vieil Élie, qui était un peu à côté de la plaque, il était vieux, fatigué, il n'avait plus trop envie de se casser la tête, visiblement. Il n'avait rien fait pour ses fils. Et la Bible est très claire sur le développement de Samuel d'un côté. Alors vous avez, Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Samuel, verset 11, verset 18, Samuel accomplissait son service devant le Seigneur. Il grandissait auprès du Seigneur. 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable au Seigneur aussi bien qu'aux hommes. C'est important, parce qu'il y a quelquefois des chrétiens qui disent l'essentiel, c'est que je plaise au Seigneur. Oui, bien sûr, mais il faut mieux rendre un bon témoignage quand même. Ensuite, chapitre 3, verset 1, le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. Et Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui. Alors vous avez ça. Parallèlement, entre deux, vous aviez les fils d'Élie étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Puis ils expliquent un peu leurs actions. Ensuite, Élie apprit comment ses fils agissaient. Puis plus loin, un homme de Dieu vient trouver Élie. Il lui parle de ses fils et lui dit « Tu honores tes fils plus que moi ». Et puis 3:12, ses fils ont méprisé Dieu et il ne les a pas repris. Ah. Voyez, parallèlement, vous avez un jeune homme qui grandit devant le Seigneur et à côté de ça, deux jeunes hommes qui font n'importe quoi. N'importe quoi. Jusqu'à coucher avec les femmes qui viennent offrir leurs sacrifices, etc. Enfin, vraiment n'importe quoi de leur vie. Aucun respect de Dieu, aucun respect du peuple, aucun respect de leur père. C'est quand même un peu fou. Samuel grandissait, le Seigneur était avec lui. Et on s'était attardé sur le fait que dans notre société, le mal augmente. Le mal augmente et on le justifie. Vous voyez, maintenant même, le droit à l'injure, le droit au blasphème devient sacré. Ben tiens, ça dépasse l'imagination, hein. Même Voltaire, il s'en retournerait dans sa tombe. Les sacrificateurs volaient les hommes, volaient Dieu. Le mal augmente dans le pays. Tout ce qui était le plus sacré était vilipendé. Et puis Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente de dire, mes enfants, ce que vous faites là n'est pas bien. Non mais oh, à une époque où le patriarche, le père, avait une autorité monumentale, il avait droit de vie ou de mort. Il pouvait les faire lapider. Et puis, ce que vous faites, mes enfants, n'est pas bien. Le mal augmentait. Élie ne bouge pas. Samuel, de son côté, grandissait. C'est-à-dire que dans notre société aussi, je pense que Dieu voit le mal augmenter. Mais je suis convaincue que là où le péché abonde, la grâce va surabonder. Et cette grâce, elle doit être sur nous, chrétiens aussi. Donc ça nous encourage pour faire face. Dieu aussi s'est montré extrêmement patient dans cette histoire. Et quand on voit les choses qui vont mal, on se dit, mais Seigneur, tu n'interviens pas. Dieu est un Dieu patient. Il attend vraiment la dernière limite. Et ça, c'est important. Parce que parfois, nous, on serait rapide. Hein, clac, clac. Lui, il attend. Il attend avant de punir, avant de supprimer les problèmes. Souvent, il attend. Parce qu'en même temps, nous, on apprend des tas de choses. Donc, si on est dans une épreuve, il faut se dire que parallèlement, Dieu prépare le moyen d'en sortir. fait du bien. Même si on est dans l'épreuve en ce moment, Dieu prépare le moyen d'en sortir. C'est exactement. Le peuple était dans l'épreuve avec des leaders pourris. Et Dieu est en train tranquillement de préparer Samuel. Seulement les gens ne le savaient pas. Ce petit jeune homme là qui servait dans le temple, il avait l'air vraiment insignifiant. Très soumis, très sage, très mignon. Bon, tout le monde devait le trouver gentil, point final. Il ne se doutait pas que ça allait être le chef d'Israël, le sacrificateur, le prophète qui allait amener la victoire, qui allait nommer les futurs rois. Ce petit jeune homme qui avait l'air de rien. Donc dans nos épreuves, je suis convaincue, on est dedans, on a la tête dedans, comme on dit, le nez dans le guidon, on ne voit plus rien. Et il faut quand même savoir que Dieu nous prépare le moyen d'en sortir. Il nous prépare notre Samuel, il nous prépare les circonstances ou les gens ou je ne sais quoi que vous avez besoin pour sortir de cette épreuve. C'est toujours comme ça avec le Seigneur et ça, ça ne change pas, j'en suis convaincue. Ensuite, on avait vu que la parole du Seigneur était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Le chapitre avait commencé comme ça. C'est pas très étonnant, vu la corruption, l'éloignement de Dieu. Vous savez, ce verset qui revient toujours dans les juges, « Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Eh bien, je crois que c'est un peu notre époque aussi. Et malheureusement, même nous, chrétiens, parfois, on fait ce qui nous semble bon. On n'a pas toujours le réflexe, mais là, on est tous pareils, je crois. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. On n'a pas toujours ce réflexe de dire « Oh, je vais quand même voir ce que le Seigneur pense. Je vais quand même aller demander au Seigneur. » Et hop, on agit avec notre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Attention. Alors, on vivait dans le compromis, donc ce n'est pas étonnant que Dieu ne parlait pas. Vous savez, ça, c'est quelque chose qui me tracasse un petit peu. On passe beaucoup de temps, souvent, à prier. Mais je me dis, mais combien de temps on passe à écouter Dieu ? Ça m'embête, ça, parce que ce n'est pas évident d'écouter Dieu. Vous vous taisez, vous arrêtez de prier. On va être concret là. Je dis maintenant, je veux écouter Dieu. Puis paf, dans les 10 secondes, oh là, j'ai ça à faire, et puis il y a ça, et puis oh non, je veux écouter Dieu. Ah, bon, je vois que vous, il n'y a pas que moi qui ai ce problème. C'est moche, Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à vraiment enlever tout ça, et puis enlever tous les parasites, puis vraiment écouter la voix de Dieu. Je pense. Je réfléchissais à ça hier et je me dis, bon, je pense qu'il faut s'entraîner. En ce moment, je retourne à la piscine 2-3 fois par semaine et j'ai remarqué, je disais André l'autre jour, c'est marrant, mais je me sens beaucoup moins fatiguée quand je sors parce que bon, j'y vais depuis le mois de septembre. Donc là, ça commence à... Il y en a qui démarrent et puis qui ont des douleurs. Mais après 3-4 mois, c'est vrai, on a plus mal et puis voilà. Et je pense que pour écouter Dieu, c'est pareil. Je pense que pour enlever tous ces parasites, ça demande de l'entraînement. Donc voilà, j'en suis là moi. Vous voyez, on est tous en chemin. Donc essayons de nous entraîner. Mais le fait est que Dieu ne parle pas si on ne l'écoute pas. Et c'est pour ça que la parole du Seigneur était rare en ces temps-là. Donc si on veut entendre la voix de Dieu, eh ben, il va falloir s'entraîner à écouter. Il va falloir se montrer disponible. Disponible à entendre le Seigneur. Alors bon, j'ai remarqué aussi parfois le Seigneur nous parle dans des moments calmes. Vous êtes dans un transport en commun, tranquille, vous attendez que ça passe. Il faut voilà. Et quelquefois, là, on est un peu cool et là, le Seigneur peut nous parler. Je ne sais pas nécessairement parce qu'on est à genoux dans un coin précis de la maison. Mais ça demande de l'entraînement. Faire taire les bruits aussi de la religiosité, du monde, du diable, ça fait beaucoup, de notre chair, nos habitudes, notre égoïsme, etc. Samuel, apparemment, n'avait pas ce problème. Il était... cool, il écoutait, et il a sans problème entendu la voix de Dieu. Le problème, c'est qu'il ne la connaissait pas, il s'est demandé si ce n'était pas Élie, donc il a couru voir Élie une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, Élie devait être bien réveillé, il lui a dit, attends, c'est pas possible, ça doit être Dieu, réponds, me voici Seigneur, ton serviteur, écoute. Écoute, justement. Voilà, on avait parlé de ça, on avait parlé aussi du fatalisme d'Élie. Parce qu'en fait, ce que Dieu va dire à Samuel, c'est « il y en a assez des fils d'Élie, en gros, c'est fini, là, ils ont passé les limites, je vais les détruire, c'est fini, je suis arrêté. » Et Dieu a testé à la fois le courage de Samuel, parce qu'il n'avait pas envie de le dire, sa carrière était peut-être compromise, il aurait pu être mis à la porte, C'était souvent les prophètes, quand ça allait mal, on les jetait en des puits, on les tuait. C'est pour ça que Jésus disait, Jérusalem, Jérusalem, toi qui as tué tes prophètes. Donc, la première prophétie pour Samuel, c'était pas drôle, il pouvait tout perdre. Mais Dieu a testé son courage, la peur de l'homme ou la crainte de Dieu, et son humilité, parce qu'il aurait pu dire, je suis bien meilleur qu'Élie, puisque Dieu me parle à moi et que je vais pouvoir lui dire ces quatre vérités à ce vieux bonhomme. Il est resté dans le respect, dans l'humilité, et il a été courageux. Par contre, là où ça a été moche, c'est le fatalisme d'Élie. Et quand Dieu vous parle sur quelque chose, quand Dieu nous parle sur quelque chose, attention de ne pas dire, bon, voilà, c'est foutu. La Bible dit que si je fais ça et ça, c'est fini pour moi, voilà, terminé. Mais ce n'est pas le but de Dieu. Chaque fois que Dieu vient nous dire, tu fais ça pas bien, tu as tort, ce n'est pas de dire, je suis un raté. Je suis dans l'échec. Toute ma vie, j'étais dans l'échec. Quand Dieu vient nous dire quelque chose, c'est pour dire, allez, change, repens-toi, demande pardon, prends des nouvelles décisions, coupe les liens, allez, redémarre. Et Élie, non. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est pas ça que Dieu attendait. Dieu attendait qu'Élie se relève et dise, mais s'il parle à ce jeune, je dois pouvoir y faire quelque chose. Alors, on y va. Seigneur, pardon pour mon manque d'autorité. Pardon de ne pas avoir repris mes enfants suffisamment. Seigneur, je veux que ça change. Je vais aller les voir. Mais non, que la volonté de Dieu soit faite. Et attention, parce que quand on a des grosses pressions, surtout dans notre société, je vois qu'on a quand même de sacrées pressions par rapport aux États-Unis ou d'autres pays, on a quand même tendance à baisser les bras. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on se dit, ça vaut le coup de continuer à se battre. Si, ça vaut le coup de continuer à se battre. De toute façon, on n'a pas le choix, on a le dos au mur. C'est ça ou la mort. Et Élie aurait pu faire quelque chose. Il aurait pu, mais non. Donc attention au fatalisme. Dieu nous demande de l'action. Il veut qu'on soit des gens d'action. Je demande pardon, je me repens, je reconnais que j'ai mal fait, je décide de ne plus mal faire, je décide de prendre des bonnes décisions et avec l'aide de Dieu, allez, on y va. Alors peut-être ça ne marchera pas du premier coup, il faudra peut-être redemander pardon et redémarrer. Mais ce n'est pas grave, il faut y aller. Et pas avoir peur de l'échec tout le temps, en disant « mais je n'y arriverai pas à tenir ». Eh bien, on recommencera, le Seigneur te relèvera et on avance. Donc restons pas dans le fatalisme et « oh ben je suis comme ça, je ne changerai pas », comme disait André tout à l'heure. C'est plus fort que moi. Voilà, c'est Élie. Non, ça il ne faut pas. Et puis après ça, la Bible nous dit que tout le peuple, tout Israël reconnaît que Dieu parle effectivement à Samuel. Ah ! La parole de Dieu était rare, mais on a enfin un homme qui entend la parole de Dieu. Ils n'étaient pas mécontents du tout. Ça fait plaisir quand même de savoir qu'il y a un jeune homme là, dans le pays, dans le temple de Silo, qui entend la voix de Dieu. C'est génial ça. C'est précieux, ça redonne du courage. Puis voilà que les ennemis attaquent. Et là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. La logique de l'époque, en tout cas, c'était d'aller consulter l'homme de Dieu, même s'il était jeune. Surtout que tout Israël reconnaît que Dieu parle à Samuel. C'est en toutes lettres écrit. Tout le monde sait. Et quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute sa sagesse. On va se battre, puis on échoue. Et là, on se dit, ils vont aller demander à Samuel, pourquoi est-ce qu'on a échoué ? Non. Ils ne vont pas consulter Samuel. Pourtant, ils le savent. Et alors, ils se disent, voyons, réfléchissons, pourquoi est-ce qu'on a échoué ? C'est une bonne question. Je disais la dernière fois, chaque fois qu'on a un échec, il faut se poser la question pourquoi ? Et demander au Seigneur de nous répondre. Non, ils se posent la question, c'est bien, mais ils répondent encore une fois avec leur sagesse. Et là, c'est la cata. Leur sagesse humaine, qu'est-ce qu'elle leur dit ? Mais l'arche n'était pas avec nous quand on a traversé le Jourdain. Il y avait l'arche. Quand on a eu la bataille de Jéricho, il y avait l'arche. Donc qu'est-ce qui donne la victoire ? Dieu, non, l'arche. Je rêve. Fétichiste, idolâtre. Alors attention, Moi j'ai connu des chrétiens qui allaient dans des lieux un peu dangereux, pour leur santé spirituelle en tout cas, mais j'ai emmené ma Bible avec moi. C'est pas du même ressort ça. Attention aux superstitions. Et là, ils ont pris les apparences, ils ont pris le religieux, mais ils n'ont pas emmené Dieu avec eux. Et dans un premier temps, même les Philistins, ils ont eu peur de l'arche. Mais ils ont dit, allez, si Dieu est arrivé au camp, ça c'est un malheur pour nous, alors il nous faut encore plus de courage. Ils sont allés se battre et toute la prophétie que Samuel avait reçue s'est réalisée point par point. L'arche a été prise, les deux fils d'Élie sont morts, Élie en apprenant la nouvelle, il est tombé, il est mort, et sa belle-fille qui accouchait, elle a appelé son bébé, elle est morte, et elle a appelé son bébé Ichabod, la gloire est partie d'Israël. Bon, au moins elle, elle voyait clair. C'est triste. C'est quand même un truc qui se finit vachement mal, alors qu'ils avaient, Dieu avait mis au milieu d'eux quelqu'un qui avait la parole de Dieu. Et je crois que nous, c'est un petit peu pareil. On a la parole de Dieu, on a notre Bible avec nous, on a la parole de Dieu dans notre cœur. Et combien de décisions on va prendre sans consulter Dieu ? Je ne dis pas de consulter des responsables de l'Église ou autre, non, mais sans consulter Dieu, sans lire la parole de Dieu, dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place ? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire ? Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ?» Et on réagit avec notre sagesse. Alors bon, ça peut être dans l'agressivité, ça peut être comme là, de la superstition, mais rien de bon quoi. Donc attention, et j'aime beaucoup cette question, c'est ce que maman me disait toujours, « Que ferait Jésus à ta place ?» Ça, ça nous aide énormément, quand on connaît un peu les évangiles, à réagir comme il faut. Que ferait Jésus dans cette situation ? Avec ce collègue, avec ses amis, avec la famille, avec les voisins, n'importe, dans l'église, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Et on revient à ce verset de Timothée, hein. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Ah, ils avaient l'apparence de la piété, ils avaient l'arche avec eux, et j'ai fait la liste hein, de ce qu'ils avaient hier, parce que je voulais me remémorer le texte. Ils avaient un souverain sacrificateur, Élie, mais ils n'avaient plus de vraie relation avec Dieu. Ils avaient un temple à Silo, mais le peuple à côté, il adorait les idoles. Ils avaient l'arche de l'Alliance, mais ça fait belle lurette que l'Alliance, elle était rompue, hein. De leur côté. Ils avaient des sacrificateurs, qui valaient vraiment pas tripette d'ailleurs, mais complètement tournés vers eux-mêmes et pas vers le pardon. Pas demander pardon à Dieu, simplement, voilà, moi. Alors on a beau avoir des sacrificateurs, si on ne demande pas pardon, qu'est-ce qu'on peut faire comme sacrifice pour être pardonné ? Enfin bon, vous voyez, il y a un problème. Et puis là, on va voir, vous vous souvenez, l'épisode très humoristique. Ah, j'aime bien, quand j'étais à l'école de dimanche, ça me plaisait ce truc-là. L'arche dans les villes des Philistins. Parce que les Philistins, ils ont pris l'arche, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors, ça doit être une divinité. Ils faisaient avec ce qu'ils comprenaient, les pauvres gens. Hein. Donc, on va la mettre dans un temple. Et le dieu qui était là depuis 2000 ans, c'était Dagon. Dagon, il était dans un temple... Grande statue. Alors, ils sont allés prendre l'arche et ils l'ont déposée dans le temple à côté de Dagon. Vous savez, ça ne les gênait pas, les païens. Un dieu, deux dieux, trois dieux, 10, 15. On prenait les dieux des peuples vaincus. Comme ça, on était plus forts. Et si c'était le peuple vainqueur après, bah, c'est bien, on avait leur dieu. Enfin bon, il y avait toute une superstition absolument dingue. Et quand ils reviennent, je ne sais plus, c'est le lendemain matin, le dieu victorieux, le dieu du peuple victorieux, était couché face contre terre, contre le symbole, devant le symbole du Dieu vaincu, apparemment. Le peuple de Dieu était vaincu. Dagon était face contre terre, devant l'arche de l'Alliance. Ça, j'aime bien, parce que même quand le peuple de Dieu fait l'idiot et déconsidère complètement Dieu, et hélas, c'est arrivé au fil des siècles hein, où les chrétiens se sont hyper mal comportés, ont vraiment mis la honte sur le Seigneur. Vous savez, lui, ça ne lui fait rien. Hein. Il est capable de se glorifier tout seul. Et cette statue immense, qui devait être très belle, hein, parce qu'ils avaient souvent de l'or et tout ça, ah, face contre terre devant l'Arche de l'Alliance. Bon, ils étaient un peu embêtés, donc ils ont remis leur idole debout. Mais le lendemain, non seulement elle était retombée, mais cette fois elle avait la tête et les mains cassées. Symbole très fort. Rien dans la tête, elle ne peut plus rien penser et elle ne peut plus rien faire. Devant l'Arche de l'Alliance. Dieu est capable de se glorifier, même quand son peuple le trahit. Dieu montre au peuple païen qui il est. Wow. Ça fait du bien, parce que parfois on se dit, ah, mais l'Église, Seigneur, quand il y a un scandale, quand il y a un problème, oh Seigneur, Seigneur, ouh, pas s'inquiéter. Il sait se glorifier lui-même. Il n'a pas besoin qu'il y ait non plus des gens qui tuent pour défendre son honneur. Il n'a pas besoin. Il sait défendre son honneur. Et puis après, du coup, ils en ont marre. Hein. Ils emmènent l'arche dans d'autres villes. Il tenait, je crois, une dizaine de villes. Et à chaque fois, les gens sont malades. Il y a des épidémies, il y a des ulcères, il y a tout un tas d'horreurs. Donc à la fin, ils disent, non mais là, c'est plus possible. L'arche de leur Dieu, on n'en veut plus. On va leur renvoyer. Je me dis, mais comment on va faire? Alors ils consultent, je ne sais pas trop comment, leur Dieu. Et puis ils décident qu'il faudrait un char tout neuf. Tiens, ils ont du respect, eux, pour l'arche. C'est triste que parfois, ce soit les païens qui ont plus de respect que les enfants de Dieu. Un char tout neuf. Et puis, on va atteler des vaches qui ont leur petit veau à l'étable. Ben vous savez, si vous connaissez un peu la campagne, une vache, si elle est en train d'allaiter un veau, elle va pas aller se balader dans la campagne. Elle va rester le plus près possible de son veau. Logique. Alors ils se sont dit, ils sont pas bêtes quand même, hein, ils se sont dit, si les deux vaches, elles emmènent le char en Israël, c'est que vraiment Dieu est dans cette affaire. Évidemment, Dieu était dans cette affaire et les deux vaches ont emmené l'arche de l'Alliance en Israël. Et là, ça nous parle. Même quand nous, on est en échec, l'échec n'est jamais dû à l'infériorité de Dieu. Oh, le mal a pris le dessus, Dieu a échoué. Non. C'est notre infidélité à nous qui nous met en échec. Mais pas l'infériorité de Dieu. Gardons toujours ça à l'esprit. Ça veut dire que si on corrige notre infidélité, on revient dans la supériorité de Dieu. Mais Dieu n'est jamais en dessous. Jamais. Les Israélites vont être soumis une vingtaine d'années aux Philistins. C'est beaucoup, hein. Et eux aussi, là, ils sont dans le fatalisme complet, comme leur Élie, là. Paresse spirituelle, amour du compromis. Ils avaient quelques petits avantages. J'en avais parlé la dernière fois. Hein. Les fêtes cananéennes, les fêtes des Philistins, il y avait du bon. Enfin, tout au moins à leur idée. Et pendant ces 20 ans, Dieu attendait. Mais il n'était pas inactif. Et j'ai horreur, moi, de ces périodes où je sais que Dieu n'est pas inactif, mais il ne se passe rien. Alors, si vous voulez savoir ce que je veux dire, parlez-en avec Philippe. Ces périodes où on sait qu'on a eu le réveil, et j'aimerais bien qu'il en parle la semaine prochaine, d'ailleurs. On sait qu'il y a eu un réveil, on sait que ça pourrait recommencer, puis on ne voit pas grand-chose. Ça, c'est des périodes difficiles. Il faut s'appuyer vraiment sur la foi. La foi, la foi, la foi, la parole de Dieu, la foi. Pourtant, on sait que ça existe. On sait que Dieu est le Dieu des miracles. On en a vu. Et on voudrait bien que ça revienne. Et ces périodes-là où Dieu, il n'est pas inactif, mais on ne voit pas grand-chose, il attend, c'est dur à vivre. Je pense que Philippe nous en parlera la prochaine fois. Mais 20 ans, c'est long. Dieu attendait. Et vous savez, Dieu, quand il attend, hein. Ça, j'aime pas non plus. Il est capable d'attendre longtemps, mais nous, non. Mais après 20 ans, ben, il se passe quelque chose. Et ben, ils en ont enfin assez. Il leur a fallu du temps pour dire on en a marre d'être soumis aux Philistins. Hein, ils avaient tellement fait de compromis financiers, commerciaux, la débauche. Hein. Philistins, il n'y avait pas de limite. C'était génial hein, par rapport à la loi. Et là, ils en ont marre. Et ils reviennent vers Samuel. Tiens, ils se rappellent que Samuel existe. Ils reviennent vers Samuel et disent, écoute, ça suffit. Crie au Seigneur pour nous. Ah, oh, tiens. Moi, j'avais dit déjà la dernière fois, Samuel ne leur fait aucun reproche. Mais il pose des conditions. Hein, et quand vous imaginez que Dieu va vous faire des reproches, enlevez ça de votre tête. Quand on se tourne vers le Seigneur après avoir fait des grosses bêtises, il n'est pas là pour nous faire des reproches. Vous avez du mal, je suis sûre qu'on a du mal à le croire. Dire, mais je vais aller voir le Seigneur, puis il va me dire, mais dis donc, Non. Par contre, il pose ses conditions. Ok, tu te repens. Ok, tu veux changer de vie. Ok, alors maintenant, tu vas faire comme ça. Mais il n'est pas là à dire, ah, non, t'as fait ci, t'as fait ça, non. Il ne revient pas sur le passé. Il pardonne, mais il dit, à partir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Hein. Dieu, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Il ne revient pas sur votre passé. Mais dit, à partir de maintenant, tu te repens, tu demandes pardon, ta vie va changer, tu prends des nouvelles dispositions. Et là, il est ferme. mais il ne fait pas de reproche. Et on voit bien ça chez Samuel, pas l'ombre d'un reproche. Par contre, il dit, si c'est de tout votre cœur, alors, le verset dit, chapitre 7, verset 3, il vous délivrera. Si c'est de tout votre cœur. Là, il y a un truc où Dieu est très exigeant. Ce n'est pas d'hypocrisie, pas de faux semblants. Si c'est de tout votre cœur. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière? Il y a un seul truc qui a fâché Jésus. Un seul truc qui l'a mis hors de lui, c'était l'hypocrisie. Mais si vous venez de tout votre cœur devant lui, pas de souci. Si c'est de tout votre cœur, repentance, action, on repousse les dieux étrangers. Eh bien, imaginez qu'ils l'ont fait. Ils avaient compris après 20 ans qu'ils en avaient soupé. Ils ôtent les Baals et les Astartés. Alors, ils ont dû tout raser, brûler, casser. Et là, Samuel, il ne s'arrête pas là. Hein. Ça ne suffit pas de brûler les idoles, là. Maintenant, vous allez vous repentir et jeûner. Confesser, reconnaître votre péché. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez brûlé les idoles. Maintenant, deuxième étape, repentance. Et il va convoquer le peuple pour un temps de repentance. Ils se repentent, ils jeûnent, ils confessent leur péché. Et là, ils lui disent maintenant, crie pour nous à l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il nous sauve. Et c'est ce que Samuel va faire. Et cette fois, hélas, j'aime ce passage. La relation avec Dieu est rétablie. Il ne compte plus sur l'arche. Personne ne mentionne l'arche. Dieu lui-même va les défendre. Et vous avez vu comment Dieu il a fait? Il ne s'est pas compliqué la vie. Orage, tonnerre, panique. Toute l'armée s'est barrée. Et c'est vrai que dans ces pays-là, hein, j'ai lu dans des livres d'histoire, quand les orages peuvent être terribles, hein, et un petit filet d'eau peut se transformer en quelques minutes en un fleuve impétueux qui arrache tout sur son passage. Alors, sauf si vous voyez des documentaires, vous verrez, c'est pas des histoires, c'est pas... La Bible dit vrai, un orage dans ces pays-là, c'est terrible. Et voilà. Mais ils comptaient plus sur l'arche, qui était qu'un symbole. Ils comptaient sur la relation avec Dieu qui avait été rétablie. Et les Philistins vont être vaincus, pas par Samuel n'est pas un général, ni par l'armée d'Israël, parce que franchement, elle n'était pas équipée. Après 20 ans d'occupation, il ne devait pas avoir beaucoup d'armes. Mais par l'intervention de Dieu en réponse à la repentance et à la prière. Ça c'est beau quand même. Après toutes les bêtises qu'ils ont pu faire, s'ils reviennent de tout leur cœur, waouh, Dieu intervient. Et la comparaison est frappante. Hein. C'est là que je vous dis que dans le livre de Samuel, il y a beaucoup de comparaisons comme ça. Le lieu est le même, Ebenezer. J'ai vérifié parce que j'ai lu ça dans un critique. Mais c'est vrai. D'un côté, c'était la défaite des Israélites. Cette fois-ci, avec la relation rétablie, c'est la défaite des Philistins. La dernière fois, ils avaient manipulé Dieu. Hein, tordre son bras en disant « Oh, Dieu ne permettra pas que l'arche soit prise. Oh, on l'emmène avec nous, comme ça on est tranquille. » Cette fois-ci, c'était la repentance. La dernière fois, il y avait des cris de joie autour de l'arche. Là, cette fois-ci, c'était des cris à Dieu, des cris pour demander l'aide de Dieu. La dernière fois, c'était Ichabod. La gloire est partie. Cette fois-ci, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. C'était géographique et temporel, les deux. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Et je crois que dans notre vie, parfois, on peut dire ça. Hein. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il y a des pierres comme ça. Ils ont élevé une pierre hein, qui s'appelait Ebenezer pour rappeler aux jeunes générations que Dieu est capable de secourir si on revient à lui de tout notre cœur. Les derniers versets, avant qu'on arrive au chapitre 8, 15, 16, 17, expliquent la vie consciencieuse du juge qui est devenu Samuel. Une vie consciencieuse, il faisait un circuit d'une cinquantaine de kilomètres, à pied visiblement, pour établir son leadership dans toutes les villes, répondre aux problèmes des gens, les conseiller, régler les conflits, faire des sacrifices, etc. Une vie consciencieuse, je pense qu'on peut juste le lire, c'est intéressant. C'est tout simple, tout court. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire un circuit par Bethel, Gilgal, Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces endroits. Puis il retournait à Rama, où était sa maison. C'est là qu'il jugeait Israël et qu'il avait bâti un autel à l'Éternel. Malheureusement, c'est là qu'on reprendra la prochaine fois, là je vais m'arrêter. Lorsque Samuel devint vieux, chapitre 8, il établit ses fils juges sur Israël. Non pas successeurs, mais juge aussi, pour soulager un peu son travail. Le nom de son fils aîné était Joël, le second Abia, ils étaient juges à Beersheba, c'est-à-dire très loin, aux 70 km au sud-ouest de Jérusalem. Donc bien loin de lui. Ça permettait qu'il y ait des juges aussi qui s'établissent dans des zones où ils ne pouvaient pas aller souvent. Malheureusement, les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Oh, ça fait mal. Ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre parce qu'ils connaissaient le problème avec Élie. La Bible ne dit absolument pas pourquoi. Ils avaient un penchant pour le profit, recevaient des présents et portaient atteinte au droit. Ce n'étaient pas des bons juges. Ils ne pouvaient pas être impartiaux. Ils recevaient des cadeaux, donc ils fermaient les yeux sur certains problèmes. C'est dommage. Il espérait compléter son action avec l'action de ses fils. Lui, il était incorruptible, mais ses fils ne l'étaient pas. Ça fait mal. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il a jugé les fils d'Élie? On peut se poser la question. Est-ce qu'il ne s'est pas marié comme il devrait? Parce que c'était les femmes qui transmettaient les valeurs du judaïsme. La Bible ne dit absolument rien, mais ça fait mal. Il a connu l'échec aussi de ce côté-là. Peut-être moins fort que Élie, mais quand même. Du coup, ça va être l'occasion pour le peuple de venir voir Samuel et dire « Écoute, t'es vieux, c'est gentil, hein, ils ne sont pas allés par quatre chemins. Tes fils ne te suivent pas. Il nous faut un roi. » Aïe, dommage. Dommage et pas dommage, parce que Dieu avait dit qu'un jour il y aurait un roi de la tribu de Juda qui viendrait nous sauver. Un roi éternel. Et il serait de la tribu royale, tribu de Juda, donc il fallait bien qu'un jour il y ait un roi. Mais le fait est qu'en venant dire ça à Samuel, il y avait un autre problème. Il voulait être comme les autres peuples, c'est de ça qu'on parlera la prochaine fois. Voilà, donc on a revu un peu tout ce qu'on a vu l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses, je n'ai pas tout pris parce que sinon je serais encore là à 2 heures. Mais s'il y a des choses qui peuvent vous faire du bien ce matin, surtout je pense à tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui ont des soucis de toutes sortes. Chaque fois qu'on est en épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir. Et il faut rester là-dessus. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. On reste humble devant le Seigneur. Mais on peut lui remettre nos fardeaux et crier à Dieu. Hein? On a vu Anne qui a crié à Dieu pour avoir Samuel. Et on voit encore le peuple. Avant d'avoir la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié à Dieu. Alors n'hésitons pas à crier à Dieu. Je crois que, bien sûr, on peut faire ça chez nous quand il n'y a personne. Moi, j'aime bien faire ça dans ma voiture parce que là, je suis sûre que personne ne m'entend. Je fais attention au feu rouge quand même. Mais on peut crier à Dieu dans la voiture, personne ne vous entend, et on peut vraiment vider son cœur. Je l'ai fait plus d'une fois. Je disais toujours, quand les enfants allaient à l'école, donc j'étais 4 fois par jour sur les trajets, je disais que c'était mon sanctuaire, ma voiture. Là, je pouvais prier, crier à Dieu. Quand j'en avais marre, des problèmes de santé, tout ça, je criais à Dieu. Et il répond. Donc je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire. Seigneur, tu connais les fardeaux de chacun de mes frères et sœurs ce matin. Tu vois comment les choses peuvent être lourdes. Mais ce matin, nous voulons confesser devant toi que tu prépares, avec l'épreuve, tu prépares le moyen d'en sortir. De la même façon que tu as préparé Samuel, même dans le désastre moral et spirituel de l'époque. Et dans nos épreuves, nos désastres, tu prépares le moyen d'en sortir. Tu nous aides, Seigneur, à nous repentir quand c'est nécessaire, à confesser nos péchés, à crier à toi pour entrer dans une nouvelle relation avec toi. Aide-nous aussi, Seigneur, à t'écouter, afin que tu puisses nous parler, que la parole de Dieu ne soit pas rare dans notre Église, que tous ceux qui reçoivent des paroles de toi se sentent libres de les donner et que ton nom soit glorifié, que tu sois honoré dans ton Église, Seigneur, et que on puisse retrouver aussi des temps de réveil. Tu attends de nous une disponibilité, comme tu as trouvé chez Samuel. Que vraiment, Seigneur, nous soyons disponibles à ta voix, malgré nos soucis, malgré nos fardeaux. Viens à notre secours, Seigneur. Apprends-nous à crier à toi de tout notre cœur, revenir à toi de tout notre cœur. Et ce sera des temps de bénédiction qui seront devant nous. Nous en sommes sûrs, Seigneur, parce que tu es vivant et vrai. Amen.